Bonjour, bienvenue dans Questions politiques, le rendez-vous politique du dimanche de France Inter, de France Info à la télévision, en partenariat avec le journal Le Monde. Le dernier Questions politiques de l'année 2021. Nous sommes à 105 jours du premier tour de l'élection présidentielle, j'ai calculé 105 jours, et peut-être autant de points d'interrogation, tant les incertitudes pèsent sur le scrutin, pas sur sa tenue. L'exécutif nous l'a assuré cette semaine, le Covid n'aura pas la peau de la présidentielle à la date prévue. En revanche, ce virus qui n'en finit pas de nous empoisonner la vie pèsera à coup sûr sur la campagne, sur son déroulé d'abord. Y aura-t-il par exemple des meetings géants, mais aussi sur le fond également, tant les positions des uns et des autres sur la crise sanitaire jouera un rôle important dans le choix des électeurs. Des électeurs qui paraissent déboussolés par une offre politique encore largement instable, si proche du scrutin. Le duel Macron-Le Pen, qu'on leur promet depuis des mois, voire des années, paraît incertain, perturbé par les émergences de Valérie Pécresse et d'Éric Zemmour, alors qu'à gauche, le tableau est rendu flou par les nombreuses candidatures dont aucune, sauf peut-être celle de Jean-Luc Mélenchon, ne semble en mesure de se hisser au second tour. Bref, un paysage politique bien flou et on a bien besoin des lumières de deux très fins observateurs de notre vie politique qui vont nous accompagner et nous éclairer. Jusqu'à 13h, Jérôme Jaffray, bonjour, vous êtes bonjour. Directeur du Centre d'études et de connaissances sur l'opinion publique et chercheur au CEVIPOF, et Vincent Martini, bonjour.
Bonjour,
vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université Côte d'Azur et à l'École Polytechnique, et vous faites également partie du comité de rédaction du journal Le 1.
Question politique, Thomas Négaroff sur France Inter.
Jérôme Jaffray, Vincent Martini, pour vous poser des questions, je serai comme chaque semaine en compagnie de la bande de questions politiques, une bande en format un peu réduit cette semaine avec Nathalie Saint-Cric de France Télévisions. Bonjour Nathalie.
Bonjour, bonjour à tous.
Et bonjour Françoise Fressos du Monde.
Bonjour et bonjour à tous.
Tout va bien toutes les deux ?
Très bien.
On aura beaucoup besoin de vous parce que vous allez être à la fois des gens qui posent des questions et qui apportent aussi des réponses et des éclairages à toutes ces questions politiques. J'ai une première question à tous les deux. On va évoquer dans l'émission les forces et les faiblesses d'Emmanuel Macron. On va évoquer les dynamiques à droite, à l'extrême droite, à gauche aussi. Mais une première question peut-être plus générale. On est, je le disais, à une centaine de jours du premier tour de la présidentielle. Grand moment s'il en est de notre vie démocratique. Si vous deviez qualifier, Vincent Martini, d'un mot, l'état de notre démocratie aujourd'hui, vous la trouvez comment ? En bonne santé ? Fatigué, un terme très à la mode, fragile.
Non, je la dirais suspendu. Suspendu à un certain nombre d'échéances, suspendu évidemment à l'épidémie de Covid, qui nous empêche un peu de voir l'avenir, puisqu'on sait que ça peut avoir une incidence sur l'abstention, on en dira peut-être un mot tout à l'heure, sur la participation. Suspendu à une série de crises, de confiance sur sa représentation, sur la nature de sa représentation, avec le doute d'une partie des Français croissante sur la qualité de l'offre politique, mais aussi sur l'utilité même d'un scrutin, suspendu à des institutions fatiguées, plus fatiguées que jamais, et en même temps que personne dans le champ politique ne remet réellement en cause, peut-être hormis Yannick Jadot, dans une certaine mesure, on en parlera tout à l'heure. Donc voilà, suspendu à une série de questions qui fait que je crois que même si les scrutins présidentiels sont toujours des rendez-vous du pays avec lui-même, et donc des occasions de bascule, on se rappelle de la révolution, entre guillemets, de l'offre politique en 2017, eh bien, cette élection qui approche, elle rend la démocratie, je crois, fragilisée par cette suspension multiple.
Alors, Jérôme Jaffray, on a eu les termes suspendu, fatigué, fragilisé, vous avez employé les trois termes. Ça correspond aussi à votre vision de l'état de notre démocratie ?
En large partie, oui, bien sûr. Moi, ce qui me frappe, c'est quand même le désintérêt. Le désintérêt pour cette présidentielle, je ne l'ai jamais connu. Hein. J'ai une assez grande expérience des élections présidentielles. Et c'est, au fond, l'idée que c'est un jeu lointain par rapport aux électeurs ne s'est jamais à ce point installée dans notre pays. Quelque chose qui ne correspond pas. Et l'élection présidentielle, normalement, c'est le cœur de nos institutions. Et elle a la fonction, précisément, de relancer la démocratie, de vivifier le jeu démocratique. Et aussi, bien sûr, de répondre à un certain nombre de problèmes du pays, d'avoir le sentiment qu'on indique un cap au pays et qu'on va pouvoir régler un certain nombre de problèmes. Et je dirais d'une certaine façon qu'on est passé de trop d'attentes à l'égard des élections présidentielles à pas assez d'attentes. C'est donc un changement assez profond là-dessus. Et dernière chose, ce qui marquait dans les présidentielles beaucoup des précédentes, c'est un vote refus. Au particulier au second tour de scrutin, quand on avait le choix finalement entre un candidat du champ républicain et un candidat d'extrême droite. Là, j'ai le sentiment qu'on peut passer en tout cas du vote refus au refus de vote. C'est-à-dire que le mécanisme d'abstention qui a touché à un point considérable, il y a une cassure entre le citoyen et le vote qu'on a vu au municipal et au régional et qui ne s'explique pas que par le Covid. Mmh. Mais évidemment, si le Covid pèse sur la campagne présidentielle, ça risque de jouer à nouveau. Donc voilà un ensemble de facteurs qui font qu'effectivement, cette présidentielle ne se présente pas comme le scrutin habituel clé de la cinquième.
Françoise Fraisseuse.
Vous parlez de fragilité, mais au fond, on parle aussi de fragilité de toutes les démocraties dans le monde. Est-ce que vous considérez que la France est frappée comme les autres, plus que les autres, ou finalement que son système, 5e République, lui permet de résister ?
Alors, je ne sais pas si le système de la 5e République permet à la France de résister. Ce qu'on constate, c'est qu'en effet, il y a une fragilisation des démocraties en Occident, en tout cas en Europe occidentale et en Amérique du Nord, fragilisée par des mouvements comme des leaders populistes récurrents qui proposent des offres, on va dire, hétérodoxes par rapport à l'offre politique habituelle et qui parviennent au pouvoir ou entrent dans des coalitions de pouvoir. Une fatigue vis-à-vis du vote qui est importante, mais ce qu'on constate quand même dans l'enquête sur le baromètre de la confiance du CVPOF, c'est que la France est plus touchée par les phénomènes de défiance dans la représentation, de défiance dans le fonctionnement du système démocratique que ses voisins. Donc, je ferai quand même aussi une distinction dans votre question entre la confiance dans l'idée de démocratie, qui n'est pas remise en cause, contrairement à ce que des fois on entend quand on dit « il y a une crise de la démocratie », une immense majorité des Français pensent que la démocratie est le moins mauvais des régimes, selon la formule consacrée. En tout cas, il n'y a pas de remise en cause de ce système même. En revanche, le fonctionnement de la démocratie est considéré comme malade ou en tout cas fragilisé. Et je crois que ça, c'est un phénomène qui est plus fort, au contraire, dans un système présidentiel, comme la Ve République, que dans un système parlementaire. On voit bien, par exemple, que l'Allemagne ou la Grande-Bretagne, qui sont les pays que le baromètre de la confiance du CVPOF essaie de tester, eh bien, sont moins touchés par cette érosion de la confiance dans le système politique.
Allez, je vous propose d'avancer un peu et d'entrer vraiment dans les forces politiques. Jean-Marc Jaffray, vous voulez couper la parole, vous vouliez dire.
Oui, un mot quand même, parce que c'est la question de Françoise Fraisseau, c'est quand même assez fondamental, il faut bien dire. Ce qui caractérise le système français aujourd'hui, et que d'autres démocraties ne connaissent pas, c'est un rétrécissement de la base électorale du pouvoir. Et ça, c'est un problème. Imaginez, si vous voulez, l'Allemagne, par exemple, elle entre aujourd'hui dans une coalition qui va grouper trois grands partis, le SPD qui la domine, mais les libéraux et les verts. Cette coalition, elle représente 53% du corps électoral qui s'est exprimé aux élections allemandes du mois de septembre. En France, nous pouvons avoir un président ou une présidente qui considérera avoir les plus larges pouvoirs, avec moins de 20% des voix au premier tour de scrutin, pas d'alliés à chercher, un vote refus au second tour qui assurera l'élection, et une majorité qui suivra aux législatives parce que les électeurs ne voudront pas d'une cohabitation. On a donc un mécanisme qui est spécifique et qui est un dérèglement profond de la Ve République, me semble-t-il.
J'ajoute un enracinement territorial très faible dans le cas de le parti majoritaire.
Et voilà la belle transition que vous m'offrez, Jérôme Jaffray, pour évoquer le cas du président de la République, Emmanuel Macron. Rarement un président n'aura subi tant de crises, crise des gilets jaunes, crise sanitaire, mais aussi crise géopolitique. On l'a un peu oublié, il a dû gouverner avec Donald Trump quand même pendant une bonne partie de son mandat. Il a aussi dû gérer la crise européenne, le Brexit. C'est quand même Emmanuel Macron qui a dû, avec les autres évidemment, mais en gérer les conséquences. Jacques Lacan disait que le réel, c'est quand on se cogne. Macron s'est assurément, je crois, cogné au réel. Comment il en ressort, Emmanuel Macron ? Est-ce qu'il en ressort chaos, affaibli ou au contraire renforcé ?
Ce qui est inouï dans l'affaire, c'est que Macron a quand même traversé un quinquennat extrêmement chahuté, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il a changé d'électorat, il a changé complètement par rapport à ses thèmes de campagne de 2017.
Ça veut dire quoi, il a changé d'électorat ?
Il a changé d'électorat, c'est qu'il a été élu très largement par le centre-gauche. La grande partie des électeurs, François Hollande de 2012, ont voté Macron aux élections au premier tour de 2017 et lui ont assuré ces 24% qu'il a eu au premier tour. Il a changé d'électorat. Ça s'est traduit déjà dès les législatives de 2017 et ça s'est vu aux européennes de 2019. C'est devenu un électorat largement de centre-droit. Or ça ne s'était jamais produit sous la Ve République, ce type de changement d'électorat et de bascule, changement de thème. En 2017, c'était la bienveillance, l'optimisme, l'émancipation, l'ouverture au monde, etc. Tous ces thèmes ont été largement mis sous le boisseau. Il a créé en partie, lui, il est en partie responsable de la crise des gilets jaunes. Et pourtant, il est le favori de cette élection présidentielle qui va venir. C'est ça qui est...
Et comment vous l'expliquez ?
Alors, c'est le paradoxe qui fait que, d'abord, il a quand même réussi par la faiblesse de ses adversaires, ce qui en politique est quand même un élément extrêmement important.
Il a aussi peut-être
dans ce jeu
aussi aidé à les affaiblir.
Bien sûr. Et le Covid, la crise du Covid fait qu'il n'est plus comptable de ce retournement thématique depuis 2017. C'est-à-dire que qu'est-ce que nous allons avoir comme campagne présidentielle? Un président qui va nous expliquer qu'il a géré au mieux et qu'il a utilisé les institutions de la Ve République pour prendre des décisions qu'avec d'autres systèmes, ça aurait été plus compliqué de les prendre. C'est ce qu'il avancera comme thématique. On le voit bien. Et si, finalement, la présidentielle consiste à dire on vote pour celui qui a bien géré la crise du Covid, on voit une réduction du champ thématique de l'élection présidentielle. Considérable.
Indépendamment de la réduction du champ thématique qui ferait qu'en gros on parlerait que de la crise en sachant si, en essayant de savoir s'il l'a bien ou mal géré, comment est-ce que vous considérez que ça peut l'impacter? C'est-à-dire, est-ce que on lui rendra grâce si dans quelques mois on s'en sort bien? Ou est-ce que, au contraire, si on s'en sort mal, les gens lui diront, vous avez fait comme si vous aviez confiance en la science, vous nous avez fait 3 doses, 4 doses. Quel est selon vous l'impact que ça peut avoir? Est-ce qu'il est sur un fil ou sur une ligne de crête en ce moment? Et quel impact peut avoir la crise sur son...
Ce qu'on a constaté quand même, si je me retourne sur les données d'opinion publique, ce qu'on a constaté, c'est qu'en 2020, Macron n'a pas été félicité par sa gestion de la crise. Et finalement, c'est Édouard Philippe qui sortait comme celui qui avait très bien géré. Il en sortait tellement bien qu'il est sorti, d'ailleurs.
Bien les sortants.
Si, voilà.
On est jamais aussi populaire quand on est plus là.
Et du coup, c'est Emmanuel Macron qui a récupéré les décisions importantes, c'est-à-dire le refus de confinement et d'autre part le pass sanitaire utilisé comme outil pour vacciner massivement le pays. Si le vaccin protège bien, cette politique, elle sera considérée comme positive. Mais moi, je pense que la présidentielle ne peut pas se résumer à savoir si la gestion du Covid a été bonne ou pas bonne. Ça, c'est un... Pour le débat démocratique, c'est quelque chose de fondamental. Car d'ailleurs, quelle sera la valeur d'un mandat donné à un président qui serait uniquement réélu parce qu'il a bien géré le Covid? On voit bien que la question de comment il gérerait les 5 années qui viennent s'il est réélu dans ces conditions pèserait. Mais je pense que pour le moment, et pour être très précis, il est avantagé.
Vincent Martini.
Alors, si on revient à votre question de départ, qui est comment va Emmanuel Macron, moi je pense qu'il va à la fois pas trop mal, mais que la situation est très instable. Pas trop mal parce que observons maintenant son taux de popularité par rapport à ses prédécesseurs, aux alentours entre 35 et 40%. C'est presque 10 points de plus que Nicolas Sarkozy, 20 points de plus que François Hollande à la même période. Sur ce base électorale, 70% des électeurs qui ont voté pour lui en 2017 se disent prêts à revoter pour lui. Ce qui va un petit peu en faux avec ce que vous venez de dire, je suis pas totalement d'accord. Moi, je croyais comme vous que l'électorat de Macron avait changé. J'avais écrit un article il y a quelques années sur ce sujet en disant, il y a une bascule vers la droite, il y a un soutien vers la droite. En réalité, on vient de faire un article avec Sylvie Strudel pour un livre apparaître sur le quinquennat Macron qui montre que, en fait, le en même temps sur la base électorale s'est maintenu. C'est-à-dire, quand vous observez les électeurs sociaux-démocrates, ils sont encore entre 40 et 50% des sympathisants d'Europe Écologie Les Verts et du Parti Socialiste à approuver l'action d'Emmanuel Macron. Et ils sont un peu plus, mais enfin pas dans des proportions majeures, à droite. Ce qui fait qu'on peut voir cette situation de deux manières différentes. Soit les sociaux-démocrates sont désespérés parce que l'offre politique qui est celle de la gauche est tellement fragmentée.
On ne peut pas l'exclure, ça.
On ne peut absolument pas exclure qu'ils considèrent qu'Emmanuel Macron, le président du « quoi qu'il en coûte », etc., avec ce tournant social depuis la crise sanitaire, représente finalement le moins mauvais candidat social-démocrate au premier tour de l'élection présidentielle. C'est une première possibilité. Il y a une deuxième possibilité aussi qui est qu'il y a une offre électorale qui se consolide et qui est plus forte à droite pour l'instant, qui fait qu'une partie des électeurs qui avaient soutenu Emmanuel Macron à droite, ils vont peut-être repartir au bercail. Ça, c'est l'inconnu. Et c'est ce qu'espère évidemment Valérie Pécresse, c'est-à-dire une fidélité partisane des électeurs républicains qui se disent, finalement, Macron, pas mal, mais enfin, on préfère quand même revenir à notre identité originelle. On le voit, ça a fonctionné d'ailleurs dans des scrutins comme les élections régionales ou les élections municipales qui ont plutôt favorisé les forces politiques traditionnelles. Donc à ce titre-là, je dirais pas que l'électorat de Macron a changé. Je dirais plutôt que Macron, il est le produit des circonstances dans une conception de la politique très post-idéologique qui fait que il tape un coup à droite, un coup à gauche quand ça l'arrange, que d'une certaine manière, c'est quelqu'un qui est profondément centriste dans la grande tradition du centrisme démocratique de Jean-Luc Canuet, etc., qui s'adapte un peu aux circonstances, matinée, encore une fois, d'un monde dans lequel les grandes idéologies traditionnelles ont totalement ou quasiment disparu. Donc, c'est plus facile de naviguer à vue. J'ajouterais un autre élément, c'est que cette assise, elle est fragile évidemment, et ça c'est pour répondre à votre question Nathalie Saint-Cric, parce que la crise, justement, on voit bien la volatilité de l'opinion vis-à-vis de la crise, elle est très prompte par lassitude, par agacement, par exaspération des contraintes qui pèsent sur elle à cause de la crise pandémique, et bien évidemment de blâmer celui d'où tout procède, et là je viens sur Macron, l'homme providentiel permanent, hein. Il y avait un coup d'état permanent, là on a un homme providentiel permanent, tout découle de lui, il dit je 500 fois par discours, les deux heures de l'intervention sur TF1 était assez fascinante de ce point de vue-là. On a l'impression que finalement, c'est un homme qui connaît très peu d'erreurs. Quand il les concède automatiquement et aussitôt pour dire que finalement, bah, en fait, il avait comme aussi raison et qu'il ne pouvait pas faire autrement.
Est-ce que ça peut expliquer, au fond, une part du rejet qui suscite
évidemment.
D'être monsieur je sais tout et, au fond, d'occuper totalement l'espace. Parce qu'il y a une dimension dans sa personnalité, c'est qu'il suscite un fort rejet aussi. Ouais.
Alors, le système présidentiel suscite un rejet croissant. Rappelons-nous Nicolas Sarkozy, rappelons-nous François Hollande. On pourrait penser, encore Nicolas Sarkozy était une personnalité très clivante, mais on pouvait penser que François Hollande, son côté très rond, empêchait ce genre de dimension. Et pourtant, il y a eu des dimensions, des discours de haine vis-à-vis de François Hollande, qui, à mon avis, sont le produit d'un système. Alors attention à ne pas tout focaliser sur Emmanuel Macron. Il se trouve qu'Emmanuel Macron, il est l'incarnation quasi parfaite du système de la Ve République. Le président qui sait tout, produit des élites traditionnelles, très verticales dans sa gestion des affaires de l'État. Et donc évidemment, c'est presque irrémédiable qu'il soit l'objet aussi d'un phénomène de rejet, mais aussi d'un phénomène d'adulation de la part de son fan club.
Où sont ses réservoirs ? Peut-être une question à Jérôme Jaffray. Vous avez une thèse un petit peu différente l'un et l'autre, sur il a commencé centre-gauche, il finit centre-droit. Où est-ce qu'il doit aller maintenant, si tant est qu'on ne parle pas que du Covid, c'est-à-dire idéologiquement, pour essayer de gratter un peu et que les gens ne repartent pas chez Valérie Pécresse et peut-être pour récupérer certains de gauche ?
Tout à fait. Le problème de Macron, c'est qu'il y a un jeu tactique de plus en plus visible, de plus en plus important, et qui fait que le risque d'être perçu comme, je dirais, imprévisible et purement tacticien est grand. Et ça, les Français n'aiment pas un président qui fait de la tactique politique, car le président, effectivement, sa dernière intervention est claire. Il a fait un certain tournant. D'abord, il a choisi Éric Zemmour comme adversaire principal, façon comme une autre d'étouffer Valérie Pécresse entre les deux, bien entendu, et également de se refaire une virginité auprès des électeurs de gauche. Car si, dans un second tour, il devait affronter Valérie Pécresse, le risque extrêmement grand, et le discours d'Anne Hidalgo qu'elle a tenu au meeting de Perpignan était extrêmement intéressant à cet égard, et Anne Hidalgo a dit, il y a deux candidats d'extrême droite, on voit lesquels, et il y a deux candidats de droite, on comprend Macron et Pécresse. Dès lors que la gauche dit qu'il y a deux candidats de droite, ça veut dire qu'il n'y aura pas de consigne de vote au second tour pour permettre à Emmanuel Macron de gagner face à Valérie Pécresse.
Pas.
Il faut donc pour Macron passer par-dessus les états-majors et aller chercher les électeurs et envoyer suffisamment de messages. Et donc on a vu, alors c'est les fonctionnaires, on ne supprime pas les postes de fonctionnaires comme si c'était des bâtonnets, il en proposait 120 000 suppressions.
Mais c'était en 2017.
Dans son programme de 2017, et il ne parlait pas à l'époque de bâtonnets, me semble-t-il. Donc on a eu toute une série de choses, de même sur les thèmes de l'immigration, il a également beaucoup évolué par rapport au discours qu'il tenait dans les mois précédents sur le thème que le problème est plutôt un problème d'intégration, qui est le discours traditionnel de la gauche à cet égard. Hein, il faut savoir mieux intégrer les immigrés plutôt que de faire des immigrés les démons de notre société. Donc il y a un jeu tactique en vue de cette situation. Mais du coup, le risque par rapport à ce que disait Vincent Martini, c'est que beaucoup d'électeurs de droite se disent « ce Macron-là, finalement, c'est un jour je suis oiseau, un jour
Violera,
donc nous préférons une candidate qui est solidement de droite. » Or, si Macron perd les électeurs de droite, il n'a pas suffisamment d'électeurs de gauche pour le propulser au second tour du scrutin. C'est en ce sens qu'il y a eu quand même en partie un changement d'électorat.
France Inter. Question politique.
Eh bien, allons-y à droite. Pause de regarder du côté de la droite républicaine. Vous l'avez dit, à l'issue d'une primaire fermée, Valérie Pécresse est devenue la candidate du Parti Les Républicains. Vous avez commencé à l'évoquer. En quoi est-elle dangereuse pour Emmanuel Macron ? Vincent Martini, je me retourne vers vous. Est-ce que c'est un danger stratégique, tactique ou plus profondément idéologique ?
Alors, je dirais d'abord que la droite républicaine joue son va-tout dans cette élection. C'est-à-dire qu'elle connaît depuis une dizaine d'années une triple crise. une crise idéologique, elle ne sait pas trop ce qu'elle pense en réalité, une crise de leadership, puisque même si Valérie Pécresse est la candidate, ça ne fait pas d'elle la leader de la droite, en tout cas pas encore, et une crise financière qui est liée à des revers à différentes élections. Encore, la crise financière est un peu contenue par le retour des adhérents, parce que la droite est en même temps le premier parti de France en termes du nombre d'adhérents, elle a un très grand nombre de relais au niveau territorial, il ne faut jamais oublier les relais territoriaux, les partis s'appuient sur des relais, sur des villes, sur des sections qui fonctionnent, des grosses fédérations, en l'occurrence l'Île-de-France et les Alpes-Maritimes, hein, c'est pas un hasard d'ailleurs si Éric Ciotti et Valérie Pécresse étaient les deux candidats qui sont passés en tête au second tour des primaires, enfin du congrès des Républicains. Mais c'est une droite qui joue son va-tout parce que si elle devait être exclue une deuxième fois du second tour de l'élection présidentielle, eh bien son positionnement serait très fragilisé et il y aurait une tension très grande qu'on a pu voir dans la campagne d'ailleurs entre une partie extrêmement radicalisée des militants républicains et une partie des sympathisants qui hésitent entre Macron et elle. Donc là, il y a un vrai décalage qu'on connaît depuis très longtemps d'ailleurs à droite entre des leaders de droite, des cadres de droite qui sont plus proches probablement d'Emmanuel Macron, enfin, qui sont entre Emmanuel Macron et ce qu'était Nicolas Sarkozy, et des militants qui ont été radicalisés par Nicolas Sarkozy et qui sont beaucoup plus à droite, ce que ne l'est le cœur de la campagne. À ce titre-là, Valérie Pécresse, elle est face à une équation qui va être un peu complexe pour elle, parce qu'elle force la radicalisation, elle-même étant plus modérée probablement que ce qu'elle raconte, même auprès de ses militants. Et à ce titre-là, ben, en fait, il s'agit de savoir s'ils vont être capables de rogner sur cet électorat macroniste et faire revenir ceux qui étaient tentés par un vote pour Éric Zemmour, ou si au contraire, eh bien, évidemment, ce vote va s'éclater.
Le pari d'Emmanuel Macron en 2017, c'est de dire le clivage gauche-droite n'existe plus et maintenant il y a un nouveau clivage entre les progressistes et les nationaux. Est-ce que vous, où en est l'état de cette décomposition, recomposition? Est-ce que ce qui se passe à droite, c'est le symbole au fond que la poutre continue de travailler? Et est-ce que vous pensez que le clivage gauche-droite existe quand même encore? Ou qu'est-ce qui se joue en ce moment dans tout ce spectre de la droite, avec notamment trois candidatures qui se disputent un peu le même électorat? Il y a évidemment Valérie Pécresse, mais il y a aussi Éric Zemmour et il y a Marine Le Pen.
Je vous suis, sauf sur le dernier point. Je ne partage pas le même électorat. C'est quand même des électorats assez différents. Alors c'est vrai que Éric Zemmour est entre les deux, mais par exemple entre Marine Le Pen et Valérie Pécresse, nous sommes dans des électorats extrêmement éloignés, sociologiquement, politiquement et idéologiquement sur ce plan. Alors vous avez raison, le clivage, une des forces de Macron qui demeure, c'est le dépassement du clivage traditionnel gauche-droite et l'idée que et ça justifie, je dirais, toutes ces adaptations, tous ces mouvements. Il faut trouver les bonnes idées là où elles sont. Hein, c'est Tony Blair venant devant l'Assemblée nationale et expliquant ce qui compte en politique, c'est la politique efficace. Il faut que la gauche développe l'idée d'une politique juste et la droite une politique efficace. Et Macron essaye de montrer qu'on peut essayer de jouer des deux. Mais sur le thème de la justice, là, probablement, beaucoup d'électeurs trouveront que son bilan est un peu faible. La droite essaye de se reconstituer avec Valérie Pécresse, effectivement. La chance de Valérie Pécresse, d'une part, c'est que il n'y avait qu'une seule personne qu'on considérait dans le pays capable de présider et de gouverner. C'était Emmanuel Macron. Parce que les Français, la gauche est hors jeu, on en reparlera dans cette élection présidentielle jusqu'à présent au moins, et l'extrême droite, Zemmour ou Le Pen, les Français n'ont pas envie d'élire un président ou une présidente d'extrême droite dans leur grande majorité. Donc blocage. Et seul Macron, capable de présider et de gouverner. Valérie Pécresse introduit donc la possibilité qu'il y ait quelqu'un d'autre qui ait cette capacité de présider et de gouverner. Et on a vu ce bond dans les sondages, pas seulement en intention de vote, parce que Vincent Martini a raison, les niveaux ne sont pas exceptionnels, loin de là, 16-17%. Sarkozy, en 2012, était quand même à 27%. Fillon, après sa victoire à la primaire, a frôlé les 30%.
Il finit à 20% malgré tout.
Il finit à 20% avec les casseroles qu'il traînait dans une campagne incroyable. Donc c'est le signe que 16-17%, ça reste très bas, en partie parce qu'effectivement, une partie de l'électorat de droite, aujourd'hui, soit est chez Macron, en considérant que c'est le moins mauvais choix possible, et en particulier sur la politique économique et la fiscalité, qui sont des choses qui, à droite, ont une très grande importance, il faut bien le dire. Et puis, une partie est chez Zemmour, sur le thème, il faut enfin être ferme et tenir, parce que un des problèmes de la démocratie française, c'est la perte de crédit de la parole politique. C'est-à-dire, vous avez une situation où, quand je disais que la présidentielle avait suscité trop d'attentes et que maintenant elle n'en suscite pas assez, c'est en partie parce que les promesses de campagne sont quelque chose dont les Français sont très largement revenus. Et un des grands problèmes de Valérie Pécresse, c'est de restaurer après le quoi qu'il en coûte, et la période qui peut continuer avec le Covid, si le Covid est très fort au premier trimestre, hein, quand Jean-François de Frécy annonce la désorganisation complète de la société est une menace qui pèse, ça signifie que le quoi qu'il en coûte devra refonctionner à plein. Mais du coup, l'idée de réforme, l'idée d'assainissement des finances publiques que porte la droite fondamentalement, que Valérie Pécresse veut porter, sont très affaiblies dans le débat politique, et c'est une difficulté pour elle.
Daniel Cohen a l'habitude de dire que le virus est de gauche, dans la mesure où il a poussé à plus d'État, plus de dépenses sociales. Ça, c'est une faiblesse, du coup, pour la droite, qui ne sait pas vraiment comment prendre cette crise sanitaire et ce virus, par quel bout le prendre, Vincent Martini ?
Oui. Je ne sais pas si le virus est de gauche ou de droite, mais je voudrais revenir sur la question plutôt de Françoise Fressos, qui me paraît très importante, sur la question du clivage droite-gauche.
Oui.
Parce que il est de bon ton de dire il n'y a plus de droite, plus de gauche. Emmanuel Macron, évidemment, en a fait un slogan en 2017. Mais enfin, quand même, si on observe la question des valeurs, c'est-à-dire les valeurs de l'électorat de gauche et les valeurs de l'électorat de droite, on voit bien qu'il y a quand même un clivage. Ce n'est pas du tout les mêmes valeurs. C'est-à-dire que vous avez à droite un triptyque autour du libéralisme, de l'affirmation, de la fierté nationale, certains diraient du nationalisme, enfin, faut voir quel niveau on le place, et le rappel de l'importance de l'autorité. Bon, ça, ce sont des valeurs qui pèsent énormément, incluant évidemment là-dedans aussi la question de l'immigration, qui joue un rôle très important dans ce qu'on appelle les valeurs culturelles au sens large de la droite. Pour la gauche, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il me semble que les sympathisants de gauche n'ont jamais été aussi consensuels dans leur vision de la société. Alors évidemment, ils sont divisés sur les questions de savoir la laïcité, en plus ou moins, etc. Mais globalement, vous avez la promotion de l'égalité, la transition environnementale comme vraiment enjeu majeur.
Attendez, il y a quand même une droitisation de la société qui fait que même l'immigration, même les questions régaliennes, la gauche s'en empare aujourd'hui pour ne pas dire la même chose qu'il disait il y a 20 ans.
Mais,
non,
mais il y a 30 ans, c'était exactement la même chose. En réalité,
la gauche qui manifeste avec les policiers, par exemple.
Oui, oui.
Quand il y a Yannick Jadot qui manifeste avec les policiers, ça, c'est pas quelque chose qu'on a vu il y a 30 ans.
C'est deux choses différentes. Qu'il y ait une droitisation de la société française, c'est un fait.
Ou même une droitisation des sympathisants de gauche, je vous pose la question.
Certains vous diraient que sur certains sujets, notamment sur les sujets de mode de vie individuel, les sympathisants de gauche sont, et de droite d'ailleurs, sont beaucoup plus progressistes aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a 40 ans.
Ouais. Hein,
demandez au CEPOF, on posait encore la question il y a 10 ou 15 ans, mais je parle sous le contrôle de Jean Jaffré, accepteriez-vous d'épouser un divorcé ? Bon, alors, ces questions-là, comme la question des choix d'orientation sexuelle...
On l'a tous fait, alors. Voilà.
Ces choix d'orientation sexuelle, ils n'ont plus aucun sens aujourd'hui. Ce sont des questions, on considère, hein, il y avait une formule de Gérard Grimbert et Etienne Schweizgut qui disait il y a un diptyque, d'une certaine manière, entre liberté privée, ordre public. Mmh. Sur les questions d'ordre public, c'est vrai qu'il y a un durcissement de l'opinion. Les questions sécuritaires, les questions d'immigration, ça, c'est vrai qu'il y a une droitisation. Sur les questions de choix de vie individuelle, de mode de vie individuelle, au contraire, la société n'a jamais été aussi progressiste qu'aujourd'hui. Donc, relativisons, enfin, c'est pas aussi simple que ça. Par ailleurs, sur la question droite-gauche, c'est pas parce qu'il y a une droitisation qu'il n'y a pas de décalage entre la droite et la gauche. Vous avez encore une gauche qui pense des choses très très différentes de ce qu'est la droite. Après, il se trouve, et ça revient à votre question, Françoise Fressos, que le champ partisan, lui, eh bien, il a du mal à recouper ces nouvelles configurations. C'est qu'il dirait qu'il y a des nouveaux clivages, il y a un clivage un peu sur l'Europe, qui traverse la gauche et la droite, mais surtout la droite aujourd'hui, parce que la gauche tend à se réconcilier progressivement sur cette question, c'est-à-dire dénonciation de l'Europe libérale, mais en même temps la fin du pacte de stabilité, hein, eh bien, qui était un énorme point de dissensus au sein de la gauche, bah, comme si on est en train de passer à autre chose, du coup, ça règle en partie le problème. Mais vous avez, voilà, une situation dans laquelle vous avez comme un décalage, sauf que les forces partisanes ne sont pas au diapason.
Mais est-ce qu'il reste des électeurs de gauche et combien ? Parce que quand on fait les totaux dans les sondages, on a l'impression qu'il y a une base qui est complètement rétrécie.
Alors, cette base d'électeurs de gauche, il faut bien comprendre qu'une partie des électeurs, 25% à peu près des intentions de vote pour la gauche, ça n'est pas haut, c'est sûr. Mais une partie de ces électeurs de gauche, sympathisants de gauche, sont en fait dans le vote Macron. Actuellement encore. C'est ça, la caractéristique. Vous avez 4 à 5 points de l'électorat Macron qui sont directement des électeurs qui sont toujours de gauche. Et c'est ce qui me surprend, moi. Au fond, la gauche, elle comprenait, quand elle était beaucoup plus puissante, une composante sociale libérale. Bon, Michel Rocard, il y avait Jacques Delors, il y avait quelque chose qui était là et qui faisait que cette gauche était plus puissante à condition de s'unir derrière un leader et avec un projet qui effectivement essayait de marier justice et efficacité le plus possible. Mais vous aviez une composante suffisamment large. Mitterrand a été élu en 1981, certes avec le programme commun qui n'était pas si loin, et l'appui des communistes, obligés des communistes, mais il y avait l'aile rocardienne qui apportait, en fait, quelque chose de beaucoup plus large. En se privant de l'aile sociale libérale, et malgré tout, je pense même que la gauche, aujourd'hui, une partie de la gauche, a évolué vers la gauche, du point de vue partisan. C'est le cas, par exemple, du Parti socialiste, qui est sur une ligne beaucoup plus à gauche qu'il ne l'a été dans la période Jospin-Hollande. Et donc, vous avez un décalage qui facilite le fait qu'une partie d'électeurs qui gardent une sensibilité de gauche se disent « on n'est pas forcé de voter à gauche à cette élection présidentielle », avec l'idée en plus que la gauche n'ayant aucune chance, comment calculer notre vote dans ces conditions-là ? Et du coup, Macron est effectivement dans cette position permanente d'équilibriste politique.
France Inter. Hashtag Question Paul.
Et moi, je dois être équilibriste dans l'animation de cette émission. On avait prévu de parler de la gauche bien plus tard, mais vous avez tellement envie de parler de la gauche qu'on va en parler maintenant. Et plus en longueur, direction donc la gauche, une gauche divisée. Vincent Martini, est-ce qu'elle est divisée parce qu'elle est faible ou est-ce qu'elle est faible parce qu'elle est divisée ?
C'est difficile à dire. En réalité, je pense qu'elle est divisée parce que les appareils partisans ne correspondent pas, pour répéter une idée que je formulais tout à l'heure, au niveau de consensus qu'ont les sympathisants de gauche sur ce qu'ils pensent être un programme ou des idées de gauche. C'est-à-dire qu'en gros, les sympathisants ne comprennent toujours pas pourquoi des gens dont ils voient bien qu'ils pensent plus ou moins la même chose sur un certain nombre de sujets ne s'unissent pas. D'où une pression très importante sur les appareils partisans. Les appareils partisans de gauche sont dévastés. Ils le sont quasiment tous. Hormis peut-être la France insoumise, dont Jean-Luc Mélenchon m'avait dit un jour qu'il était dans un état gazeux, la formule avait fait fleuresse. En gros, il reste comme dans un état qui est difficile à comprendre pour une partie de l'opinion au-delà du cercle des gens qui sont très proches de Jean-Luc Mélenchon. Mais vous avez des appareils partisans qui ne correspondent plus du tout, probablement, à une forme de modernité politique ou aux demandes de cet électorat. En revanche, vous avez un électorat, encore une fois, qui, sur les grands sujets, pense à peu près la même chose. Et donc, c'est, et voilà le paradoxe de la gauche qui est d'un côté, en effet, sur une base rétrécie, comme le disait Jérôme Jaffré, mais qui en même temps a vu une partie des sociolibéraux rejoindre Emmanuel Macron avec l'idée qu'il n'y a peut-être pas de retour. C'est ça la question qu'on peut se poser. C'est est-ce que si Emmanuel Macron disparaissait du paysage politique, est-ce que tout d'un coup, il y aurait une possibilité pour ces électeurs qui ont voté pour lui, sociodémocrates, de rejoindre un grand arc social-démocrate ? Ça, c'est un peu ce qui va se jouer dans cette prochaine élection pour la gauche. En réalité, je partage le point de vue de Jérôme Jaffré. Je ne crois pas qu'en ce stade, la gauche ait une chance de gagner l'élection présidentielle. Enfin bon, je crois que c'est assez consensuel de dire qu'il est peu probable qu'elle le fasse. En revanche, la question qui se pose, c'est est-ce qu'elle sera en mesure, dans les mois qui viennent, de créer des formes de coalition sans parti hégémonique, c'est ça la différence avec avant, il n'y aura pas de parti socialiste ou de vert qui va prendre la place du PS, ça n'arrivera pas, pour créer des formes de coalition qui pourraient avoir un certain succès aux législatives et construire les victoires
alors,
de demain.
Attendez, je vous arrête parce que vous dites ça n'arrivera pas, qu'il n'y aura pas d'hégémonie. Or, ce qu'on constate, c'est qu'au fond, il y a une compétition, maintenant que le Parti socialiste est extrêmement affaibli, entre Yannick Jadot ou Jean-Luc Mélenchon pour prendre, au fond, la tête de la social-écologie. Et pourquoi vous dites que personne ne va y arriver ?
Parce que les appareils partisans ne sont pas assez forts. D'accord. Et qu'en réalité, derrière Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, il n'y a pas assez de consensus. Chez Jean-Luc Mélenchon, bon, ouais, c'est un chef assez fort. Donc, mais enfin, on sait très bien que François Ruffin joue sa partition, Clémentine Autain n'a pas exactement les mêmes idées.
Non, mais au PS, c'était pareil par le passé.
Oui, mais Jean-Luc Mélenchon a 70 ans, c'est sa dernière élection.
D'accord, mais quand on regarde les indicateurs, ou même l'élection précédente, l'hégémonie, elle était du côté de la France insoumise.
Non, mais c'est pas une hégémonie qui ressemble à celle du PS, encore
et,
une fois.
Et sauf que la France insoumise, c'est le péché de Jean-Luc Mélenchon après ses 19% après la présidentielle de 2017. Il aurait dû prendre la leadership de la gauche. C'est ahurissant qu'il ne l'ait pas fait. Être au fond une sorte de Mitterrand un peu plus à
et
gauche.
Et pourquoi il n'a pas réussi?
Parce que je pense que, d'abord, la détestation du Parti Socialiste était quelque chose d'absolument fondamental chez Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire le règlement de compte, l'idée de devoir se tourner vers le Parti Socialiste prises pour l'absorber. C'était la manœuvre pour les législatives de 2017. Ça n'était pas très difficile. Il est même allé jusqu'à présenter des candidats partout contre le Parti communiste français qui avait apporté son soutien au premier tour à Jean-Luc Mélenchon. Ça se paye de la candidature de Fabien Roussel aujourd'hui. Moi, je crois que dans cette affaire, le problème de la gauche, tel que vient de décrire Vincent Martini, c'est que l'idéal pour elle serait de construire une coalition. Et le problème de la coalition, c'est que ça ne correspond pas à la Ve République. Parce que la coalition, c'est excellent pour des législatives. Vous pouvez partager des postes. Vous pouvez partager de la représentation. Et ça, ça devient quelque chose de fondamental. La présidentielle interdit le partage. Il faut trouver l'incarnation.
Oui, mais regardez,
dans le système.
La coalition, c'est au fond la gauche plurielle qui a montré aussi dans l'exercice du pouvoir qu'elle était incapable de tenir.
Chère Françoise, je me permets de vous rappeler que c'est par les élections législatives que la gauche plurielle est arrivée au pouvoir. Des élections législatives qui étaient à l'époque séparées de l'élection présidentielle, provoqué par la dissolution de Jacques Chirac, et qu'effectivement, Lionel Jospin, comme vous le dites, n'a pas réussi à transformer ça par la présidentielle, tout simplement, probablement parce que l'ancien trotskiste était assez mal disposé avec les institutions de la Ve République pour jouer totalement le rôle là-dessus. Mais je crois aussi, une chose qui me frappe aussi, c'est quand même, pour le moment, la limitation de l'ambition écologiste dans cette élection présidentielle. C'est quelque chose de très frappant, parce que au fond, l'idée, et le Parti Socialiste qui avait quasiment souscrit un moment avec Olivier Faure, qu'on allait vers la social-écologie et qu'on marierait assez vite les deux partis, le Parti Socialiste du cycle d'Épinay étant arrivé à l'évidence en fin de parcours, ça se confirme tous les jours, il faut bien le dire, et que du coup, on pouvait trouver quelque chose de commun dans la social-écologie. Les écologistes jouent un rôle dominant, mais les socialistes apportant effectivement les réseaux territoriaux qu'ils représentent et qui du coup donnent une force considérable, et que cet alliage pouvait fonctionner. D'une part, les écologistes n'en veulent pas. Ça me surprend que les écologistes n'aient pas saisi la main tendue par Anne Hidalgo. Il y avait l'occasion là d'une négociation assez large qui pouvait se faire au profit des écologistes, puisque Jadot est nettement au-dessus d'Hidalgo dans les intentions de vote. C'était un moment idéal. Je ne comprends pas. Et puis d'autre part, l'image écologiste dans le pays ne correspond plus tout à fait. Bien sûr qu'il faut faire la transition écologique. Bien sûr que le réchauffement climatique est un problème majeur, en particulier pour les jeunes générations qui considèrent que les politiques ne parlent pas de ce problème fondamental et que c'est quelque chose d'ahurissant. Mais vous voyez par exemple la remontée du nucléaire, de l'énergie nucléaire dans l'opinion publique. Elle est spectaculaire, cette remontée. Et elle signifie bien combien les parce que tout simplement le nucléaire n'émet pas de CO2 et contribue fortement à la décarbonation de l'économie. Donc deux éléments absolument positifs. Or, le cœur des écologistes, c'est d'être anti-nucléaire. Mais du coup, ça renvoie à une image anti-progrès, anti-possibilité d'aller vers la transition écologique en respectant quand même la vie des gens. Parce que c'est ça l'inquiétude. Et du coup, nous avons une écologiste qui se satisfait. On a l'impression que le but des écologistes, c'est d'installer Jadot à 8% le soir du premier tour avec des socialistes à 4% et que là, ils atteindront le bonheur maximum. Mais ça changera pas la politique.
Justement, est-ce qu'il n'y a pas un problème de ressources humaines à gauche? C'est-à-dire, comment se fait-il qu'entre la multiplication des incarnations qui finalement débouche sur qu'il n'y en ait aucune, c'est-à-dire que tout le monde est éclaté, est-ce qu'il n'y a pas, il ne nous manque pas quelqu'un qui pourrait, je vous avais parlé de François Mitterrand, on va pas faire les anciens en se disant, ah, c'était mieux avant, un Jospin, un Mitterrand, enfin, quelqu'un qui émerge et qui soit pas, c'est quand même frappant le phénomène Anne Hidalgo, cette espèce de côté scotché dans les sondages, c'est quelque chose de très, très étonnant. Et même Yannick Jadot, qu'est-ce qui se passe ?
Vincent Martin.
Il y a deux phénomènes dans votre question. Le premier phénomène, c'est le fait que les partis, les structures partisanes de la gauche agissent comme des verrous pour des élections. C'est-à-dire, vous avez à l'intérieur des gens qui n'ont pas les mêmes cultures politiques. Il y a eu un livre récemment qui s'appelle « Militer chez les Verts » de Vanessa Jérôme et qui montre qu'il y a une façon de militer chez les écologistes qui n'a rien à voir avec la façon de militer chez les socialistes ou à la France insoumise. Et ça, c'est culture de parti. Il ne faut pas les sous-estimer. Ça veut dire parce que les partis sont faits par des gens, et ces gens, il faut qu'ils puissent parler. Quand ils ne parlent pas de la même chose, quand ils n'ont pas la même conception même de la politique, eh ben, ils se fichent de leurs sympathisants. Ce qui compte, c'est leurs militants. Donc, il y a une première chose. Et d'ailleurs, ce que dit Jean-Luc Mélenchon, c'est je ne vais pas vous rejoindre. Je ne vais quand même pas sacrifier ma base partisane. Ça fait 10 ans que je travaille pour une Christiane Taubira qui sort de nulle part, entre guillemets, et qui va me voler ma petite base électorale. c'est le même problème chez Yannick Jadot qui dit, mais attendez, moi j'ai fait une primaire, j'ai fait tout le travail.
Taper une deuxième, oui.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et ça, c'est un sujet, je crois, très important, qui est quand même le rapport de la gauche historique avec les institutions de la Ve République. Mmh. Et je crois que le fait que la présidentialisation est devenue très importante, notamment dans la façon dont les médias présentent les enjeux d'une élection. Et ça, ça me paraît très frappant. On est 20 ans, en avril 2022, après le 21 avril 2002. Il me semble que ce 21 avril, il a augmenté d'un cran toute une série de maladies de la Ve République. Alors, la première élection avec un tel niveau d'abstention, un niveau d'augmentation de l'hystérie médiatique autour de la question présidentielle et surtout une demande d'incarnation extrêmement forte. Et je crois que 20 ans plus tard, eh bien, la gauche n'a toujours pas de réponse à cela parce qu'elle est profondément hostile.
À cette logique-là.
À cette logique-là. Et qu'on essaye en permanence de faire rentrer un rond dans un carré en disant, mais attendez, donnez-nous un leader, donnez-nous un chef, donnez-nous quelqu'un qui... Et ça, c'est une logique qui marche très bien à droite, parce qu'à droite, la culte du chef est une dimension importante de la famille qu'a représenté l'UDR, puis le RPR, etc., etc., l'UMP et aujourd'hui les Républicains. À gauche, c'est beaucoup plus compliqué,
donc,
surtout...
Je suis, Vincent Martini, par rapport à ce que vous disiez au début de l'émission, oui. La gauche devrait être en... l'avant-garde d'une demande de réforme des institutions.
Bah, évidemment. Il me semble que la seule solution, il faudrait faire des propositions. Mais là, la gauche est un peu coincée entre deux dimensions. D'un côté, la seule chose qu'elle a à proposer pour l'instant, c'est un retour à une république parlementaire. Sauf qu'il y a plein de problèmes, et le principal problème, c'est que les gens, pour l'instant encore, aiment encore l'élection présidentielle. Et ils considèrent que ce serait leur priver d'un droit, que leur priver du droit de pouvoir choisir leur président. Mmh. Et on voit bien, à l'époque, il y avait une commission qui s'appelait la commission Bartolone, hein, à l'époque où Bartolone était président de l'Assemblée nationale, et ils avaient buté sur ce problème. Qu'est-ce qu'on fait pour changer les institutions à partir du moment où on ne peut pas supprimer l'élection présidentielle? Donc c'est ça leur difficulté. Je crois que tant qu'ils sortiront pas de ces difficultés, c'est-à-dire, à mon avis, garder l'institution présidentielle, probablement transformer le rôle du président de la République pour ensuite réintroduire une dimension plus collective dans cette action et notamment plus de démocratie directe. Hein, c'est aussi une autre question par rapport à la démocratie représentative et sa crise. Je crois que la gauche sera coincée dans le même endroit.
François Fressoz.
Alors là, on touche au cœur des difficultés de la France. C'est qu'au fond, on a l'impression que le quinquennat a accentué une dérive qui était déjà constatée avant. C'est la quasi-disparition des corps intermédiaires. On voit que, par exemple, les syndicats sont consultés, mais comptent assez peu. On voit que le Parlement a beaucoup de mal à exister. Enfin, il travaille, mais en fait, il a beaucoup de mal à prouver qu'il sert à quelque chose. Et est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron a aggraver le phénomène, ou au fond, est-ce qu'on est dans une transmutation actuelle de l'exercice de la démocratie? Est-ce qu'il faut réfléchir à de nouvelles formes de participation?
Écoutez, vous, ce qui est vrai, c'est que probablement Emmanuel Macron a aggravé le phénomène. Car, au fond, dans ce que vient de dire Vincent Martini, vous avez les inconvénients du télescopage des législatives et de la présidentielle, de la subordination des législatives à la présidentielle, qui était une conséquence profonde des élections de 2002. C'est-à-dire que là, les électeurs ont vu, après 5 ans de cohabitation, qu'on pouvait arriver à une situation qui ne correspondait pas du tout à leurs souhaits politiques. Hein. Le choc de la qualification de Jean-Marie Le Pen au 21 avril 2002 a été immense. Il nous dit d'ailleurs combien les choses ont changé, puisque aujourd'hui, la qualification d'une candidate d'extrême droite apparaîtrait pratiquement dans la logique électorale et ne changerait les choses. Macron... Il aurait pu répondre à la crise de la gauche, je reviens à la question de Nathalie Saint-Cricq, de l'incarnation. C'est ce que croyaient naïvement beaucoup d'électeurs de gauche, en se disant, mais chic, nous avons élu Michel Rocard ou Jacques Delors à l'élection présidentielle, on va pouvoir avoir, et c'est inouï compte tenu du fait du discrédit dans lequel était tombé le quinquennat Hollande, nous nous en sortons de façon absolument magnifique, nous avons un président qui va porter. Et pas du tout, Emmanuel Macron, il a fait avec ses nominations, Édouard Philippe, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, il a tout de suite montré que pas du tout, c'était pas du tout ce qu'il voulait faire et qu'il fallait pas se tromper là-dessus. Donc, il a changé les choses. Alors, les corps intermédiaires là-dedans, effectivement, la faiblesse et la crise des institutions, elle n'est pas que celle des partis politiques. Elle est aussi, par exemple, celle des syndicats. Elle est le changement profond des classes sociales dans notre pays. L'individualisation extrêmement profonde du prolétariat qui fait dans des tâches désincarnées qui ne sont plus du tout collectives fait que vous avez plus cette force collective. On aboutit du coup à des mouvements sociaux type gilets jaunes quand le pouvoir multiplie les erreurs et ça a entraîné et ça a eu des effets énormes. Je pense que c'est la rupture fondamentale du quinquennat Macron. C'est-à-dire que Macron a découvert les Français avec les gilets jaunes et que manifestement ça a été un choc énorme pour lui.
France Inter. Question politique. Thomas Negaroff.
Allez, on ouvre la dernière partie de cette émission. Vincent Martini, tout à l'heure, vous parliez d'hystérie médiatique, d'hyper-incarnation. On va donc parler d'Éric Zemmour. Comment est-ce que vous analysez le phénomène? Est-ce que pour vous, c'est un épiphénomène capable de bouleverser totalement l'élection?
Alors, c'est intéressant, Éric Zemmour, parce que ça va faire la suite à la question de Françoise Fressot sur est-ce que Macron avait aggravé la situation de la faiblesse des corps intermédiaires. Moi, je pense que ce que dit Emmanuel Macron, mais aussi quelqu'un comme Éric Zemmour, de l'évolution de notre vie politique, c'est une crise du réel. C'est-à-dire, ce sont des acteurs politiques qui, à l'occasion, s'émancipent du réel, ou en tout cas accélèrent la confusion qui existe entre le réel et la fiction. On voit bien d'ailleurs que les jeunes militants favorables à Emmanuel Macron disent « Est-ce que vous voulez encore 5 saisons d'Emmanuel Macron ?» Hein, la vie politique devient une saison, alors c'est évidemment agrémenté par... Alors les médias, évidemment, qui jouent un rôle très important. Et Éric Zemmour, il est vraiment, pour moi, l'incarnation de ça. Mieux vaut une bonne histoire que le réel. D'ailleurs, c'est d'où toutes les questions de faussaires de l'histoire, ces inventions manifestes sur la question de Vichy. On a du mal à comprendre ça parce qu'on se dit, mais pourquoi il réouvre ce vieux dossier? Pourquoi il nous explique que peut-être que Dreyfus était encore innocent? Alors on pourrait dire, le prof de sciences politiques pourrait vous dire, c'est un retour de la droite légitimiste dont parlait René Raymond, contre-révolutionnaire, réactionnaire. Mais il me semble aussi que c'est une façon de plonger les électeurs potentiels dans un monde dans lequel la réalité n'est qu'une histoire parmi d'autres.
Alors, il y a cette dimension, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi la dimension chez Zemmour d'essayer de faire, au fond, la jonction des électorats de droite et d'extrême droite en réhabilitant, par exemple, Vichy, parce que, voilà, une partie de la droite était vichyste et s'est sentie malheureuse. Et donc, est-ce qu'il n'est pas en train d'essayer de recomposer et de faire ce grand parti républicain, identitaire, très à droite, très conservateur, pour, au fond, faire sauter les appareils partisans qui, comme vous le dites, ne sont pas... En bonne situation en France.
Peut-être d'un mot avant de passer la parole à Jérôme Jaffray sur cette question. Oui, il y a une volonté d'union des droites qui avait été quand même déjà faite un peu par Nicolas Sarkozy, hein, grand parti conservateur, identitaire, hein, le débat de l'identité nationale. On se souvient que Nicolas Sarkozy en avait fait un élément très, très important. Et ça expliquerait pourquoi Éric Zemmour dit « je ne vais pas plus loin que ce que disait le RPR dans les années 90 », ce qui n'est pas totalement faux hein, quand on revoit les discours parfois très durs sur la question migratoire des leaders de droite à l'époque. Oui, ça me paraît en effet une dimension très importante. La question, c'est que c'est un peu bizarre d'aller chercher Vichy, parce que je crois que les électeurs de droite en général ont quand même mis Vichy derrière eux depuis probablement le discours de Jacques Chirac.
Plutôt le roman national.
Oui, c'est plutôt l'idée dont on fait un roman national. On se souvient de François Fillon disant on va réunir quelques académiciens, puis on va décider ce que c'est que le récit national, et puis tout le monde sera d'accord. Mais il se trouve que ça marche pas comme ça, on le sait, puisqu'aujourd'hui, il se trouve que les Français, et Dieu merci, s'approprient leur propre histoire, et qu'il y a autant de récits nationaux presque que de groupes qui se disputent pour savoir à quoi doit ressembler l'histoire, et on devrait s'en réjouir plutôt que s'en lamenter d'ailleurs.
Jérôme Jaffray.
Oui, dans la question de Françoise Fressos, ce qui est intéressant, c'est de s'interroger sur la fonction d'Éric Zemmour dans cette élection présidentielle. Il ne peut pas la gagner, c'est évident. Mais il y a une fonction idéologique extrêmement forte.
On vous enregistre. Hein.
Oui, mais je prends ce risque quand même, car l'homme clive profondément et suscite un très fort rejet de la majorité du pays. Mais il rencontre aussi un écho très fort. Et cet écho nous interroge. C'est-à-dire d'abord qu'il installe les thèmes de cette campagne présidentielle jusqu'à présent. Est-ce qu'on va en changer, à part simplement le Covid? Il installe l'idée du repli national, les questions de l'état de droit. Ça n'est pas rien, et les électeurs ne sont peut-être pas assez attentifs. Mais quand on dit qu'on s'assoira sur le Conseil constitutionnel pour prendre des décisions, c'est un changement absolument majeur qui est dit. Et que si ces idées pénètrent, on voit bien que ça a des conséquences considérables. Les traités européens, également. À partir du moment où on dit que les traités européens, également, on fera les référendums nécessaires pour que les traités européens n'existent plus, nous sommes très proches de la Pologne ou de la Hongrie comme système idéologique qui joue. Donc, il y a quelque chose, mais il y a un écho profond. C'est au fond l'idée quand même de l'identité française, la survie de la France, le déclin, la relation à l'islam, la place des immigrés. J'ai été frappé dans certains sondages où on posait des questions, pour des phrases de Zemmour pour demander si on est d'accord ou pas d'accord, sans indiquer qu'elles étaient de Zemmour. Vous dites une phrase « Je me sens étranger dans mon propre pays ». 40 à 50% des Français sur ce genre de questions répondent qu'ils sont d'accord. 70% des électeurs Fillon de 2017 disent qu'ils sont d'accord.
Mais Fillon était déjà sur ces thèmes très forts de l'islamisme radical, de l'identité,
l'identité
de
nationale, la peur du déclin.
Est-ce qu'on ne va pas vers une droite extrêmement conservatrice, identitaire dans les années qui viennent?
D'abord, malgré tout, ce qui était retenu principalement de Fillon, c'était un programme social très dur, un programme économique extrêmement libéral. Il s'est servi de ces thèmes, vous avez entièrement raison, pour étouffer Alain Juppé dans la bataille de la primaire. Là,
qui faisait l'identité heureuse.
Il l'a mis là, l'identité heureuse, face à l'identité éternelle, la France éternelle, voilà, comme le thème classique de la droite à cet égard. Donc nous avons ça. La fonction idéologique, en tout cas, c'est au minimum d'obliger la droite à tenir compte de ces questions et à des avantages les intégrer dans son programme. Et ça n'est pas un hasard si Patrick Stefanini, le directeur de campagne de Valérie Pécresse, qui a fait un livre sur l'immigration, développe tous ces thèmes du régalien dans le programme Pécresse pour précisément essayer d'organiser l'union des droites. Alors maintenant, pour aller sur ce que vous dites, qui serait un changement, une recomposition partisane, tout dépend du résultat de la présidentielle à cet égard. C'est-à-dire, si vous avez une situation où Pécresse est élue, ou se qualifie pour le second tour, en frôlant la victoire au second tour, il n'y aura pas de recomposition politique. Si, en revanche, nous avons un Macron-Le Pen au second tour, avec, et là, nous aurons effectivement une explosion de la droite, entre ceux qui choisiront de rallier Macron, et Macron le veut pour gagner les législatives qui sont dans la foulée, il a besoin de récupérer une partie importante des Républicains dans ce cas-là, et à ce moment-là, nous pourrons avoir l'hypothèse que vous prenez d'un parti conservateur identitaire, et il y a plusieurs leaders possibles, je pense que Laurent Wauquiez, par exemple, est en position d'essayer d'en prendre le leadership, Éric Zemmour cherchera aussi à le poursuivre, donc cette recomposition est possible, elle est d'autant plus possible si Emmanuel Macron est réélu, en particulier face à Marine Le Pen.
Par rapport à Marine Le Pen, est-ce que vous pensez que ce sont les électeurs de Zemmour qui manifestement viennent un peu plus d'une droite CSP+, qui sont susceptibles d'aller vers Valérie Pécresse, plutôt que le fond de sauce de Marine Le Pen, qui est un électorat plus populaire?
Vincent Martini.
Valérie Pécresse doit-elle aller chercher plutôt chez Zemmour que...
Tout va dépendre, en effet, des campagnes. C'est-à-dire, en gros, on sait que les campagnes, il y a des campagnes jumelles, hein, entre Valérie Pécresse, Éric Zemmour, Marine Le Pen. C'est-à-dire, la faiblesse de l'un ou de l'une va nourrir les autres. Donc ça va vraiment dépendre des dynamiques de campagne. C'est pas ce qu'il devrait faire. Moi, en tout cas, je suis pas là pour dire ce qu'il devrait faire, j'en ai aucune idée. Mais en revanche, c'est sûr que si Valérie Pécresse fait une très bonne campagne, elle risque de vider Éric Zemmour d'une partie de sa vitalité, de la même manière que si Marine Le Pen avait tendance à s'affaisser, bah, automatiquement, ça rehausserait Éric Zemmour. Non pas parce qu'ils ont les mêmes électorats, en réalité, c'est pas tant le cas. Il y a une bourgeoisie patriote que rêve d'agréger Éric Zemmour, qui ne votera pas pour Marine Le Pen a priori, de la même manière qu'il y a un électorat plus populaire, hein, qui vote pour Marine Le Pen, qui a priori ne se porterait pas sur Éric Zemmour. Mais encore, je dirais juste un mot quand même de ce qu'est Zemmour. Et comment expliquer le phénomène Zemmour? Zemmour, c'est le produit d'une forme et d'un fond. La forme, c'est la spectacularisation de la politique. Le fait que certains éditorialistes deviennent des sortes de stars. On sait très bien que c'est l'émission On n'est pas couché qui a vraiment propulsé Éric Zemmour et qui l'a installé tous les samedis soirs, parlant de la chanson française, parlant de débats de société et parlant de politique. Et cette confusion en a fait un personnage familier des Français qui fait que tout le monde connaît Éric Zemmour. Hein, il le dit d'ailleurs son clip de campagne. Vous me connaissez depuis des années. C'est vrai, tout le monde le connaît. Et surtout, Éric Zemmour est un acteur politique divertissant. J'ai dit acteur au sens...
Oui, divertissant, voire pas ennuyeux, et même quelquefois qu'il pose des questions qui sont intellectuelles.
Parce que les jeunes gens disent ça. Oh, il est marrant, Zemmour, il clash, il est amusant. Chose. Bon, ça, c'est une question de forme. Et puis, il y a un fond, quand même, qu'il faut quand même souligner, qui est une guerre culturelle qui est en train de se jouer à droite depuis quelques années, qui est menée par toute une jeune garde qu'on retrouve dans les médias comme le Figaro Vox, mais aussi des grands médias comme CNews. Donc on voit bien que là, il y a des thématiques, des vocabulaires qui sont installés, émission après émission, droit de l'homisme, sans frontiériste, toute une série de vocabulaires qui s'installent insidieusement ou de manière...
Alors, est-ce que ça s'installe insidieusement ou c'est parce que ça n'a pas été traité, entre guillemets, correctement, ni par la droite, ni par la gauche, qu'on leur laisse la possibilité d'avancer là-dessus.
C'est précisément...
On en est quand même à plus de 30%, si
c'est précisément le but, à mon avis, de ce genre de guerre culturelle, d'arriver à poser ce genre de questions. Je pense qu'il y a toute une jeune garde très idéologique, très idéologue à droite, qui martèle un certain nombre de thématiques sur l'identité, sur l'immigration. Ces thématiques, elles trouvent des relais plus ou moins complaisants dans les médias, dans lesquels, en fait, finalement, vous pouvez dire tout ce que vous voulez sans être vraiment contesté, puisqu'on dit, bah finalement, justement, c'est peut-être parce que ça n'a pas été traité par ceux d'en face. Et il est vrai, par ailleurs, que cette guerre culturelle renvoie à la faiblesse sur ces questions-là de la gauche.
Compte tenu de ce que vous venez d'expliquer, Vincent Martini, je vais y arriver, je reviens à ce que vous disiez au début, Jérôme Jaffré, vous avez dit, en évoquant l'interview d'Emmanuel Macron à TF1, vous avez dit, il a choisi Éric Zemmour comme adversaire. Est-ce que c'est un bon choix que de taper exclusivement sur Éric Zemmour de la part du président de la République?
Alors, il ne tape pas exclusivement quand même sur Éric Zemmour, parce que Valérie Pécresse a eu droit à quelques aimables propos, en particulier sur le nombre des fonctionnaires, on l'a dit tout à l'heure. Mais je dirais, c'est au fond, vous avez des systèmes idéaux. Éric Zemmour, c'est le repli national, totalement organisé, et poussé à un point d'incandescence, puisqu'il désigne les musulmans vivant en France comme le problème de la France, et il va jusqu'à dire que l'immigration fabrique un système qui met en danger la France. C'est là d'ailleurs où il dépasse Marine Le Pen de très loin, sur son extrême droite. Marine Le Pen dit qu'il y a un problème avec les immigrés, mais elle ne dit pas que les immigrés, c'est un système qui détruit la France. Et du coup, Emmanuel Macron retrouve une position universaliste et humaniste. Dans cette affaire, c'est sans prix. C'est se refabriquer une virginité politique à bon compte. Et je pense par ailleurs que ça correspond aussi à la vision qu'il portait en 2016-2017 d'une France ouverte, d'une société ouverte sur le monde. Et l'étonnant, c'est que la gauche est absente de ce débat, alors qu'elle devrait y prendre toute sa place.
Merci, merci beaucoup à tous les deux. C'est déjà terminé, on aurait pu continuer bien longtemps. Merci Jérôme Jaffré, merci Vincent Martini. Vincent Martini, je précise qu'à partir de la fin du mois de janvier, chaque semaine dans le 1, l'hebdomadaire, vous allez signer une chronique présidentielle et vous serez chaque vendredi sur France Inter au micro de Claire Servageant à 18h40 pour suivre la campagne présidentielle avec votre regard de politiste. Passionnant regard ce midi. Merci beaucoup. Merci Nathalie, j'y arrive. Merci Françoise, c'est la fin de l'année pour tout le monde. On se retrouve l'année prochaine, bien sûr. Merci à Clément Vuillet, merci à Tiffany Battistel pour la réalisation de cette émission. Merci Alexandre Gilardi et Jean-Philippe Ballas pour la préparation, la programmation et la rédaction en chef. À l'année prochaine.